La nuit du cinéma frisson au générique de mon bazin.
Non ! Non !
Bonsoir à tous, donc ce soir nous sommes au générique de Montbazon pour la nuit du cinéma frisson organisée par la junior association de Montbazon Les Inconnus. Aujourd'hui pour m'accompagner ce soir, je suis avec Alain, je vais te laisser te présenter Alain.
Donc moi c'est Alain, bonjour aux auditeurs de Rage, je suis animateur territorial à la CCVI et ma passion numéro un c'est le cinéma. Je fais d'ailleurs une émission qui s'appelle Cinéphage, parce que vraiment je mange de tout comme cinéma, et donc je fais ça sur une radio associative qui s'appelle Radio Active et je présente cette émission qui se nomme Cinéphage. C'est bimensuel et ça traite de tous les thèmes avec un invité et on parle de cinéma en général.
Voilà. En général, ouais. Et c'est pour ça donc que j'ai fait appel à toi. Donc ce soir, les personnes qui vont assister à Nuit du cinéma frisson vont pouvoir assister en première partie à 20h à Annabelle, qui a fait le buzz, on va en revenir plus tard dans l'émission, puis à Conjuring, et enfin à Massacre à tronçonneuse. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ces films, en général ?
Donc ces trois films, j'ai eu l'occasion de les voir, vu mon âge un peu plus avancé que le tien, et donc, on pourra dire que les films dont on va parler aujourd'hui appartiennent principalement à deux catégories. La première pour les deux films, c'est ce qu'on appelle plutôt les films de paranormaux. Donc un genre qui est une des grandes branches de la famille des films d'horreur, parmi lesquels les plus beaux fleurons, on peut citer L'Exorciste, Amiens, Poltergeist, Amityville pour les plus anciens, et Projet Blair Witch, Paranormal Activity et The Ring pour les plus récents. Le troisième film, lui, par contre, c'est un classique de ce qu'on appelle le slasher, donc avec un bon dément, souvent ce qu'on appelle un redneck, c'est-à-dire, chez nous on dirait un bouseux, entre guillemets, une famille de bien dégénérés, qui massacre en série, c'est la grande industrie du massacre, donc souvent assez grand guignol, avec du sang qui gicle, les grands films, on pourrait dire, autour de ce thème, on pourrait citer, les Vendredis 13, Halloween, Hatchet, Freddy, donc les fameuses griffes de la nuit, toute la série, et plus récemment, Saw et Détour mortel et Scream, c'est les bons exemples.
Les années 2000, exact. Donc, en ce qui concerne Annabelle, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce film, comment il est construit, en règle générale, etc.
C'est un traditionnel paranormal sans trop de surprises. Je ne comprends pas le buzz qu'il a fait d'ailleurs. Pour l'avoir vu, c'est un petit film sympa. Ça a été surtout histoire de continuer The Conjuring, dont on parlera tout à l'heure le second film. C'est un spin-off, ce qu'on appelle, donc il nous parle d'un des personnages qu'on retrouvera d'ailleurs dans The Conjuring, la fameuse poupée Annabelle.
Donc si on revient sur le buzz, certaines salles de cinéma ont choisi d'annuler la diffusion de ce film, car une certaine partie des personnes qui venaient voir ce film, donc les plus jeunes, avaient des sortes de crises de démence, ne se tenaient pas dans les salles, du siège apparemment aurait été arraché, etc. Toi, t'en dis quoi de ça ? Comment tu réagis ?
Pour moi, c'est un petit peu un phénomène de buzz. Maintenant, c'est à la mode, Facebook, Twitter et compagnie. Moi, j'ai eu la chance de le voir dans une salle bien tranquille, avec une dizaine de personnages. Il y avait des âges très différents. En plus, j'ai eu l'occasion de discuter avec les gens qui travaillent sur Tours, sur un des cinémas de Tours. Le personnel de sécurité a eu à intervenir pour une ou deux personnes qui parlaient un peu fort, mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vraiment classique. En plus, c'est un montage classique, un peu téléphoné, on pourrait dire. Quand on connaît un petit peu les gens qui sont un petit peu spécialisés dans le film d'horreur, c'est très téléphoné. Donc moi, je ne comprends pas du tout le buzz. Je pense plutôt que c'est pour faire soit vendre le film et aussi le côté politiquement correct. Le problème qu'on a eu avec Halloween, qui était beaucoup plus populaire il y a quelques années, et puis maintenant, c'est pas bien, il y a des fêtes catholiques plus ou moins à côté, ou traditionnelles, donc faut pas déranger. Moi je trouve que c'est dommage, parce que ça laisse de la pluralité, plus il y a de pluralité, plus c'est intéressant pour la société.
Certaines personnes, comme Rurik Salé, l'ancien rédacteur en chef du magazine Metaluna, une revue spécialisée de cinéma, lui, je le cite, il dit... Les jeunes sont là, les personnes sont là pour vivre une expérience comme à la Foire du Trône, pour hurler, se fendre la gueule. Le cinéma d'horreur n'est pas intellectuel, c'est un cinéma du corps des tripes, jugé avec condescendance en France. Les ados ne s'embarrassent pas de ce genre de préjugés, ils sont dans l'expérience physique. Réaction par rapport à ça ?
Bah, entièrement d'accord. De toute façon, la peur, comme la mort, c'est des choses qui font partie de la vie. Mmh. Et bon, pour les ados et les jeunes adultes, je pense que la mort, c'est très loin, hein, on n'y pense pas. On a envie de se faire peur, comme ça. On a envie de se faire plaisir en allant au restaurant. Mmh. C'est des expériences qu'on a envie de faire en collectif ou en individuel. Là, oui, on partage, comme on va voir un match de foot, c'est l'excitation. Ben voilà, faut pas prendre plus haut que ça. Et pour moi, oui, ça, c'est pas parce qu'on va aller voir un film d'horreur qu'on va être un tueur en série. Ça a été prouvé, certains psychopathes sont des gens très bien en apparence, qui n'ont pas forcément vu de films d'horreur, et qui derrière sont même plutôt malsains. Je dis, on voit très bien que de temps en temps, hein, quelqu'un bien costumé, bien cravaté, et puis, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine.
Ok. En ce qui concerne Annabelle, une poupée, un classique, il y a eu Chucky, etc.
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, rien d'extraordinaire, à l'ouest, rien de nouveau.
Bien pour débuter les films d'horreur quand on est plus jeune.
Oui,
c'est pour ça qu'il n'était pas interdit au tout début et que maintenant il est interdit au moins de 12 ans. Mais
voilà, puis bah justement, on sait très bien que les Américains sont très forts pour ça. Hein. C'est du business. Mm. Et donc, on essaye d'attraper la censure la moins importante afin d'attirer un public beaucoup plus large.
Beaucoup plus large. Le deuxième, Conjuring. Donc le deuxième, c'est avec les Warren. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Alors ça, plus intéressant déjà parce que ça part d'un fait réel. Mm-hmm. Donc le fameux couple Warren, qui sont des gens qui traquent les phénomènes paranormaux.
Donc ont vraiment existé, vraiment
qui
un
existe,
vrai couple.
Qui existe toujours.
Je crois que le mari est décédé il y a pas
longtemps. Qui existait toujours lors du tournage, puisqu'on a pris leurs travaux comme base pour ce film.
Ils ont vraiment travaillé sur Amityville, sur Le Garou de Londres, etc.
C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est des films comme Amityville. Voilà, ça se rapproche pour moi qui ai vu la première série dont je citais tout à l'heure les classiques du paranormal. On voit que The Conjuring louche très fortement vers Amityville, Poltergeist, ce genre de film. Avec des effets spéciaux, par contre, très bien fait, une ambiance. Le fameux tournage à caméra à la main, là, qui peut être énervant dans certains films. Paranormal Activity, pour ne pas le nommer, au bout d'un moment. On a la peur qui monte au fur et à mesure. Ça s'installe bien, on installe les personnages, tranquille, petite famille, tranquille. Les classiques, avec la musique qui intervient, l'ascension, bien sûr. Voilà, et l'ascension. Le fait que l'Église ne veut pas intervenir dans ce cas, parce que c'est... on peut voir dans l'exorciste, par exemple, les tentes, mais là, on laisse vraiment ce couple, on les prend un peu pour des fous. Hein, et c'est vrai que c'est le côté intéressant qui peut poser question après. On y croit, on n'y croit pas, mais c'est un bon petit film.
Ouais, et peut-être le fait aussi que ce soit basé sur des faits réels avec des personnes qui ont existé, ça amène aussi à la peur, à mince, ça a vraiment existé.
Ouais, c'est sûr, derrière ça captive. Mm. On se dit, ça pourrait être près de chez moi.
C'est ça, c'est aussi ça qu'on vient chercher dans la peur. Le réalisateur, James Wan, il a réalisé aussi Saw, Insidious. Bah,
voilà, c'est des classiques. Bon, avec Saw, il a fait ses armes. Mm. Autant la suite, bon, c'était pour moi du gore grand guignolesque. Mm. Hein, on exploite un filon, mais ça, comme on disait tout à l'heure...
On en parlera dans une autre émission, les sagas, ouais.
C'est un problème. Mais par contre, le premier était excellent. Mm. Moi, je m'étais littéralement fait embarquer. Mm. Ce que j'adore d'ailleurs dans le cinéma. Quand ça arrive encore à nous surprendre...
Le micro qui tombe.
Ouais. Je le remets tranquillement. Ouais, oui, donc se faire embarquer dans un film et être dedans, pendant tout le film, être là à chercher l'intrigue, donc là, c'est génial.
Ouais, celui qui n'a pas vu le premier Saw, le dernier quart d'heure est vraiment affolant. Ouais. Ah. Je m'en rappelle aussi.
Moi, j'ai pris une claque.
Ouais, moi aussi, ouais.
Autant, bon, les films d'horreur, j'aime bien, mais bon, c'est ce qu'on dit. On disait entre nous, c'est vrai que ça a du mal à se renouveler. Des fois, on exploite un peu un filon. Mais là, avec Saw, on avait vraiment relancé. Moi, je comparerais ça à un film policier qui s'appelait Usual Suspect. Et ben, c'est ce genre de film où jusqu'au bout, on se pose des questions et l'intrigue,
voilà,
et on est toujours, on est dans, et même des fois, en finissant le film, on est encore dedans.
C'est ça, et on laisse tout le temps le petit questionnement de fin, tout à fait. Donc voilà, les deux premiers films, Annabelle, Conjuring, on vous en a brossé un petit portrait. On va se faire une petite pause musicale avec une BO de film célèbre, on va vous en parler juste après la pause, et après on va enchaîner sur Massacre à la tronçonneuse. Nous sommes toujours à la nuit du cinéma frisson, donc à Montbazon, avec Alain, et je pense que vous avez reconnu cette bande originale de son du célèbre film Saw dont on parlait juste avant. Tu peux nous en dire deux mots du rôle de la bande-son
La bande-son, je crois que c'est un des éléments, quand on parle de film d'horreur, on ne peut pas oublier la bande-son, parce que c'est les rebondissements, bon, il y a les traditionnels gimmicks, par exemple le chat qui apparaît pour désamorcer la scène qui va arriver après, la musique qui monte, dans Les Dents de la Mer, entre autres, hein, le fameux son, on sent que le requin ou le mâle va arriver systématiquement, c'est le crescendo, et là, bon, ça aide aussi, bien sûr, à l'ambiance du film.
Bien sûr. Massacre à la tronçonneuse, pour cette dernière partie d'émission, il en fallait au moins une partie entière pour parler de ce film. Donc je rebrosse vite fait le portrait de ce film, Massacre à la tronçonneuse, tourné dans les années 80. Il a été interdit 8 ans après le tournage en France et 25 ans en Grande-Bretagne. John Toby Hooper, le réalisateur, tu peux nous en dire quoi, Alain ?
Bah déjà un excellent réalisateur de films d'horreur, puisque c'est quand même quelqu'un après qui a eu une carrière, contrairement à certains qui disparaissent. Et puis bon, bah, ce film, c'est on pourrait dire un classique du film d'horreur de ces années-là, et qui a amené tous les slashers dont on a parlé, hein, que ce soit les Vendredi 13, qui ont à peu près dans les mêmes époques, mais les Scream, les Griffes de la Nuit, tout ça derrière, c'est des tours mortels, pour parler d'une saga beaucoup plus récente. Il n'y aurait sûrement pas eu
tous ces films.
S'il n'y avait pas eu Massacre à la tronçonneuse, qui reste justement par le fait de ces différentes interdictions, un film mythique. Je me souviens, moi, pour avoir eu la chance à l'époque, dès qu'il est sorti en VHS, on s'est précipité avec des copains pour voir ce film. Bon, on est sorti un peu déçu parce que c'est du grand guignol, c'est bien gore, mais bon, c'est très gore. Puis le fait de savoir que c'est tiré en partie d'une histoire vraie, une fois de plus. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a toujours le côté... Et puis dans l'inconscient collectif, les gens maintenant, hop, on voit quelqu'un avec une tronçonneuse, tout de suite il y a la blague, t'es pas dans Massacre à la tronçonneuse, fais attention.
Donc ça a marqué
et plusieurs générations.
Tout à fait. Après, est-ce que c'est vraiment gore ou aussi c'est ce côté noirceur, la noirceur de ce film tout le long, le comment c'est filmé, etc. Les personnages qui fait qu'on se sent mal tout le long en fait.
Alors Tom Hooper, par exemple, on parlait de la musique, il y a des sons qui sont importants. Il a tenu à ce qu'on entende toujours sur le tournage, il y avait le fameux bruit de la tronçonneuse. Ouais. Et ce qui fait que même les acteurs étaient terrorisés. Certains acteurs, ça les a fait flipper de tourner en permanence avec ça.
Avec un bruit de tronçonneuse.
Et le Leatherface, le fameux personnage, un des frères de la famille de dégénérés, était tellement... Bon, déjà, il est immense comme acteur, en taille. Et le maquillage était tellement impressionnant que les acteurs du film flippaient rien que de tourner des scènes avec ce gars-là.
Avec ce gars-là, ouais.
Donc on imagine le rendu. Bon, même on le voit, parce que c'est bon, il y a vraiment, pour pas déflorer le film, il y a vraiment des scènes vraiment trash, comme on dirait. Et on s'imagine aussi dans la peau d'un personnage se faire courser tranquillement dans la campagne par un espèce de géant sanguinolent avec une tronçonneuse derrière. Je pense que n'importe quel d'entre nous bien constitué prend les jambes à son cou. Et d'ailleurs, vous aurez la chance, pour ceux qui ont vu le film, de rigoler, parce que je ne pense pas qu'on crie autant quand on est poursuivi comme ça. Son souffle, on le garde.
Donc, si on le voit ce soir, alors qu'il a été tourné dans les années 80, c'est qu'il a 40 ans cette année. C'est son anniversaire. Tu peux nous dire quoi sur une version restaurée?
Version restaurée, donc bien sûr, le son, ça a fait des progrès énormes. Le numérique aussi, puisqu'à l'époque, c'était pas tourné en numérique. Là, ils ont beaucoup travaillé sur la couleur. Donc on va avoir du beau rouge sang, ça va être pétant.
Tout en gardant le côté ancien de...
Voilà, tout en gardant, c'est un film des années 80, donc on ne va pas mettre, je ne sais pas moi...
Côté pellicule gardé, pas mis qu'en numérique.
Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que derrière, le fait de retravailler, puis surtout, moi ce que je vois en tant que cinéphile, et pour les gens qui vont aimer, c'est l'occasion de redécouvrir ou de découvrir un chef-d'œuvre. Enfin, chef-d'œuvre. Le mot est grand, un classique, disons, un classique du film d'horreur.
Un classique qui a amené autre chose.
Qui, voilà, on sait, après, pour ceux qui aiment le cinéma, ça leur permet de comprendre la suite du cinéma, et puis pour les plus jeunes, de découvrir ce qu'était le cinéma d'horreur dans les années 80 aussi. Il y a plein de classiques, on en parlera sûrement plus tard dans une autre émission, mais voilà, c'est vraiment... les acteurs, en plus, ne sont pas des gens connus, qui tournaient dans ce film-là, donc ça permet aussi de temps en temps, c'est bien pour s'identifier justement à ce genre de film. Souvent, c'est... Après, il y a des caméos d'acteurs dont dans les suites, il y a par exemple Dennis Hopper, le grand acteur de Easy Rider, qui va être dedans, entre autres. Mais là, c'était vraiment des inconnus, pratiquement.
Ok. Ça a donné suite, avec le buzz que ça a fait, le fait que ça ait marché, ça a donné suite à plein d'autres massacres à tronçonneuse.
Oui,
Une saga. Hooper, lui, il en dit, le seul truc que je retiens de ces remakes, ce sont les deux plans en contre-plongée sur le cul de Jessica Biel. T'en penses quoi, toi? C'est pas du cul de Jessica Biel, bien sûr, mais de ses...
Des séquelles, quoi. Des séquelles, voire préquelles, puisqu'on a même maintenant des préquelles. Parce que c'est la grande mode actuellement dans le cinéma, c'est d'expliquer le pourquoi du comment de avant, quoi. Comme dirait l'autre, en schématisant et en rigolant. Et Pour en avoir vu certains, celui que je citais avec Dennis Hopper, entre autres, c'est assez marrant de voir un grand acteur s'égarer dans ce genre de film, faire un petit peu son show, on dirait. Hein. Bon, ça se regarde, c'est pas assez... Autant il y a des suites qui vont être un peu plus... pas intéressantes, mais là, je me souviens particulièrement de revoir cette famille de dégénérés être récompensée à un prix culinaire pour ses chili con carne. Voilà, c'est le genre de truc. Bon, il y avait des clins d'œil assez marrants. Après, bon, le scénario reste toujours basique, dont un se passe dans la radio. Mmh. On est aujourd'hui dans une radio, donc on voit les gens de la radio écouter en direct un massacre. Donc c'est assez bon. Voilà, il y a plein de petites anecdotes. C'est pas méchant. Et voilà, il y a même René Zellweger qui a tourné dans Bridget Jones. Mmh. Et ben, on la voit apparaître dans un des massacres à la tronçonneuse, comme quoi on peut commencer dans le gore et finir dans la comédie.
C'est sûr. Donc tu nous conseilles d'aller le voir. Après, nous, on a choisi de le programmer parce que c'est un classique, mais il reste interdit aux moins de 16 ans, même s'il a été tourné il y a 40 ans.
Voilà, ça reste, pour moi, oui, il y a des scènes quand même, bon, pour un jeune public, c'est normal. Il faut que ça soit adapté, faut pas non plus... faut préparer le public. Moi, je suis entièrement d'accord au niveau des jeunes. On peut voir des choses. Moi, je suis pas pour la censure, au contraire. Mais bon, c'est vrai que pour des plus jeunes, il y a des scènes qui sont vraiment très gore, très trash. Vaut mieux les emmener voir un petit Annabelle, un truc comme ça. C'est vrai, c'est une approche. Après, avec l'âge, bon, quand ils auront découvert, qu'ils seront prêts, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas la peine pour moi de faire subir des choses à des enfants, ça peut les traumatiser. Faut rester dans le respect. C'est comme toutes sortes de cinéma. Je pense que faut être prêt pour voir certains films. On va passer à côté de choses. D'autant plus que là, ça va être le côté plutôt choquant. Dans certains films, je prends par exemple des drames, ou des choses comme ça. Là, ils vont passer, ils vont pas forcément comprendre des choses. Mais là, bon, un film gore, c'est quand même quelque chose de choc. Hein. Donc, non, je pense que c'est la progression et cette programmation. Hein, bah, je tiens à féliciter les organisateurs.
Asso, donc, la Junior Asso, les Inconnus.
Bah, ouais, parce que en tant que cinéphage, j'ai déjà suivi l'année dernière ce que vous aviez fait et j'ai trouvé ça excellent qu'un cinéma d'une petite communauté de communes se bouge et que les jeunes se bougent pour faire vivre le cinéma, qui est un art pour moi majeur. Donc félicitations, hein, je le dis, j'en profite que je suis à la radio pour le dire et féliciter et les encourager à continuer dans cette voie.
Et donc voilà, Annabelle, The Conjuring et Massacre à la tronçonneuse pour vous ce soir. Bonne séance à vous et à une prochaine émission dans la nuit du cinéma Frisson. Merci Alain.
Merci, à bientôt.
La nuit du cinéma Frisson au générique de Montbazon.
Non ! Ah !